Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque soir jusqu'à 19h, les débats des grandes voix. Ce soir, Nathalie Lévy, vous êtes entourée de Catherine Ney et Michel Cotta. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
C'est un trio féminin ce soir, un quatuor féminin bien sûr. Eh bien écoutez, on est ensemble jusqu'à 19h pour aborder deux thèmes importants. Bah, ce remaniement dont on va parler évidemment entre rumeurs, coups bas, intox, imminence ou pas, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis dans un instant, faut-il faire de table rase du passé dans ce contexte de tension arrivée autour du racisme? On en a commencé à aborder le sujet hier et on a vu des statues déboulonner désormais. Alors, s'agissant de ce remaniement et de tout ce qui va avec, bien entendu, parce qu'il y a des choses qui se murmurent, Catherine Ney, des choses qui se murmurent, de l'air de complot aussi, là, à l'heure qu'il est.
Ben oui, c'est la majorité va mal. Elle est un petit peu en comme
en
ça.
Chaos.
En pas, je dirais pas en chaos, mais vous avez vu qu'il y a eu un groupe qui s'est créé, oui. Puis un second, puis un intergroupe à l'intérieur. Bon,
alors chahut peut-être.
Il y a un chahut et quelque part aussi l'idée que cette majorité n'était pas tenue, qu'il n'y a pas de leader de ce groupe parlementaire qui impose une discipline. Alors, évidemment, beaucoup de députés mettent en cause le Gilles Legendre, oui. Qui est un homme qui a un travail très difficile à faire, parce que faire cohabiter en même temps des gens qui sont à droite et d'autres à gauche, et qui, plus l'animosité personnelle de Gilles Legendre envers le Premier ministre, ça crée quand même des tensions et des problèmes que... jusqu'ici, aucune voix, en tous les cas pas le président de la République, n'a su y mettre de l'ordre. Et puis, on voit aussi que des ministres parlent un peu à tort et à travers, se poussent. Quand même, entendre Mme Schiappa dire qu'elle ne croit pas du tout à la candidature de Mme Buzyn à Paris, vous voyez, alors qu'elle est sur une liste, là, vraiment, ça fait désordre. On a l'impression un petit peu, alors que le déconfinement a un peu déconfiné les esprits, qu'il y a une espèce de nervosité. Alors oui, il doit y avoir... un remaniement, oui, on le dit, mais c'est la presse qui le dit, c'est un désir de certains députés qui voudraient bien être ministres, c'est peut-être un désir de certains ministres qui voudraient changer de choses, mais pour l'instant, un seul à la réponse, c'est le président de la République.
C'est
dire
oui, qu'on a... Voilà. C'est toujours la même question, donc c'est difficile. Il ne faut pas essayer de broder autour de
c'est
ça.
C'est pour ça qu'on ne va pas sortir des noms du chapeau comme l'a fait Yves Legendre, par exemple.
Non, c'est complètement inutile. Mais c'est vrai que moi, je suis assez sensible au contexte que tu décris, Catherine, c'est-à-dire une majorité avec des groupes différents qui menacent pas, grosso modo, Emmanuel Macron lui-même, parce que ce sont des groupes qui plus ou moins votent pour lui ou voteront pour lui.
Mais ce n'est pas les frondeurs de François Hollande.
Ce n'est pas du tout les frondeurs de François Hollande. Non. Mais tout de même, ça donne une impression...
de fébrilité, tout au moins.
Des pas de côté de certains ministres. Vous avez reçu quelqu'un, un syndical de la police tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ce que dit... le secrétaire d'État Nunez n'est pas la même chose que ce qu'a dit Castanière. C'est vrai que ce qu'a dit le préfet Didier Allemand et qui c'est drôle, les syndicalistes policiers rendent hommage.
Bien sûr.
C'est bien. Donc,
qui court-circuite vraiment le ministre de l'Intérieur.
Il n'y a pas seulement, je trouve, chacun se pousse un peu du col, parce qu'on sait très bien qu'en période de remaniement, chacun avance un peu ses pions. Et puis même s'il fait quelque chose, même sans le vouloir, on dit qu'il avance ses pions. Mais c'est vrai que... l'atmosphère doit être difficile, surtout d'ailleurs après la note de Gilles Legendre, entre le Premier ministre, entre...
qui lui se porte très bien dans les sondages, on sait très bien que les sondages ne font pas.
Entre Bruno Le Maire, entre Gérard Darmanin, avec Jean-Yves Le Drian, tout ça n'est pas commode à régler. Alors, reste la question des relations avec le président, entre le président et le Premier ministre. Alors, là... je sais que Catherine et moi, sommes très circonspects.
Alors justement, vous me gardez ça pour dans quelques secondes ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Édouard Philippe, évidemment, sait aussi remettre les choses à leur place quand il entend trop de rumeurs. On en parle donc juste après, avec vous deux, Catherine et Michel Cotta.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et les grandes voix Catherine et Michel Cotard.
Et oui, on vous parle d'un gouvernement sous tension, hein, la veille d'un possible, probable remaniement, avec quand même 65% des Français qui souhaitent aujourd'hui que Édouard Philippe reste à Matignon. Il est très populaire, Édouard Philippe, Michel Cotard, Catherine Ney. Et évidemment, il y a de la, il y a plus que de la brouille sur la ligne entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe aujourd'hui.
Non, c'est peut-être trop dire, mais c'est vrai que c'est un couple impossible toujours, même si aucun n'a failli à la règle. On n'a jamais entendu Édouard Philippe raconter quelque chose de ce que lui disait. Bon, tout ça a très bien marché. Ben. Et puis, il y a quand même, on voit quand même des désaccords. Et manifestement, l'accord sur le déconfinement, par exemple, en est un. L'un va aller plus vite que l'autre. De là à ce que le président de la République dise à Philippe...
Il lui renvoie d'ailleurs sa responsabilité pénale.
Et
hein,
dise à Philippe de Villiers, oui, rappelle à Philippe de Villiers, dont on sait qu'il dit tout, à sa responsabilité pénale.
Le président
je trouve qu'il y a
ne devrait
quand
pas
même,
dire
voilà,
ça. Exactement. Voilà,
oui. Alors, et de l'autre côté, on sait quand même maintenant que Emmanuel Macron reproche l'âge limite, l'âge pivot, comme vous savez, reproche peut-être les 80 km à l'heure, reproche peut-être la taxe au carbone. Ouais. Enfin, tout ça a bien roulé jusqu'à maintenant. Et on a là, quand même l'impression qu'on est dans une phase où il faut quand même dire s'il reste Premier ministre ou pas. Ouais, parce sûr. Que c'est insupportable non, pour tout le monde.
Bien sûr, Catherine.
Ce qui est insupportable pour un président, c'est que son Premier ministre soit plus populaire que lui.
C'est ça. Ils l'ont jamais
Alors,
supporté.
Quand il a été à deux ou trois points de différence, c'était à peu près pareil. Mmh. Mais ça a été vrai pour tous les présidents. Mmh. Quand Chaban avait 10 points de mieux que Pompidou, c'était insupportable. Quand Pompidou était mieux en 68, plus populaire que le général de Gaulle s'est séparé de lui. Donc, et pour un jeune président qui arrive et qui est toujours dans la séduction et qui pense, et c'est vrai qu'il est un inventif qui espérait changer la France et puis qui voit que ça marche mal... et qui se réinvente chaque jour un rôle depuis quelques mois. Tantôt c'est un chef de guerre, tantôt c'est enfin quelquefois il a pas grand chose à dire, mais il parle quand même. Alors que Édouard Philippe pendant cette crise du Covid, c'était lui qui était au charbon, qui mais c'est vrai qu'il faisait le tempo, qui parlait, qui s'exprimait et qui est apparu dans le couple comme le tuteur face au président qui était un peu dans les nuages et qui n'était
Plus
pas
lyrique.
Encore bon voilà et qui était un peu un langage un peu éthéré. Et à chaque fois on se dit, tiens, il a eu raison de le faire, c'est que de le dire. Regardez, là, on parle beaucoup de la crise entre Castaner
on va y venir, évidemment.
Et les policiers. Mais Castaner qui dit que, par exemple, que l'émotion dépasse les règles juridiques pour autoriser les manifs, eh bien, comme par hasard, c'est le Premier ministre qui a dit, si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion... Ouais. Alors c'est un basculement de la République qui intervient, et le basculement de la République, quand je vois cela, je me dis qu'il n'est pas si loin. Ouais. Donc c'est toujours lui qui rappelle à l'ordre les ministres quand quelque chose déraille, vous voyez. Et donc les députés et les Français qui l'écoutent disent « heureusement qu'il est là ». Pendant le débat sur les retraites, quand il disait « mais combien ça coûte l'équilibre budgétaire ?» alors qu'on ne voulait pas en parler, on se disait, les Français disaient « mais il a raison ». Donc vous voyez, c'est à la fois...
Oui, il a raison. Ça dépend pour qui, parce que c'est vrai que cet âge.
Mais pour les Français, il a raison. Pour une majorité de Français, par rapport au Premier ministre,
sur l'âge pivot,
il a raison. Alors,
sur l'âge pivot, je ne suis pas sûre. Sur les retraites, je ne suis pas sûre.
On a vu les Français descendre dans la rue.
Contribuer, effectivement, à compliquer le cas avec Emmanuel Macron. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, au fond, le président est un carrefour où il continue comme ça, et alors on sait que beaucoup de gens disent dans sa propre majorité, ah ce sera comme Sarkozy avec Fillon et il peut pas s'en débarrasser, bon ce qui est jamais bon non plus, où il se sépare d'un Premier ministre plutôt sympathique et même très sympathique aux Français, et ça c'est toujours un risque parce que on a cité Chaban-Delmas, mais on peut citer Michel Rocard.
D'autant que c'est peut-être son plus dangereux rival pour 2022. On va pas faire de la peur. Mais aujourd'hui, si on regarde le schéma du jour, simplement.
On va pas faire de la prospective comme ça. Je pense pas quand ça se trouve
déjà
question,
elle est aussi dans les esprits.
En rivalité, mais sur la police, le problème qui se pose quand même devant eux, le chemin de crête est difficile. parce que c'est vrai que le ministre de l'Intérieur ne nuance pas toujours assez ses propos. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une manifestation, que les jeunes, dont on a très peur après le confinement, seront samedi sur le terrain.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'il faut passer entre la revendication... pour lequel, encore une fois, même Jacques Toubon, qui vient quand même, qui vient pas de la gauche, dit que faut être gentil, la ligne de crête est très difficile entre qu'apporter à ces jeunes qui disent oui, il y a trop de boulot, et qu'apporter en même temps aux policiers pour leur dire vous avez quand même rudement bien tenu le
d'autant
coup
que c'est
face
Edouard
aux Gilets
Philippe,
jaunes.
Qui... Donc maintenant, bien sûr, d'autant que c'est Edouard Philippe qui est de nouveau allé sur le terrain à Évry le lendemain, donc envoyé sans doute par le président de la République. Il y a assez peu de doutes sur la question, Catherine. S'il est sur place le lendemain à Évry pour essayer de recoller les morceaux...
Tout le monde a senti qu'il fallait recoller les morceaux.
Je ne sais pas. Oui. Non, mais le Premier ministre ne fait rien sans avertir l'Élysée.
Voilà.
Donc... Mais est-ce qu'il dit avant de parler au président ce qu'il va dire? Il va sur le terrain pour essayer de rassurer
mais
les gens.
Cas, pour rassurer
les... Oui, les policiers.
D'ailleurs, il n'a pas été le seul. Donc le préfet de police aussi.
Le préfet de police
ne fait rien sans l'accord du
président de la République. Et il y est allé franchement dans le soutien aux policiers. On se retrouve dans un instant, mesdames. On va aussi revenir sur ce passé avec les tensions ravivées ces derniers jours autour du racisme, des statues déboulonnées par des manifestants en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et avec des questions aussi sur la ville de Bordeaux.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine Ney, Michel Cotard.
Des statues qui dérangent, celles au Palais Bourbon de Colbert, de Léopold II en Belgique, de Christophe Colomb aux États-Unis, attaquées d'ailleurs, ces statues à Boston, à Miami, en Virginie. Mesdames, faut-il déboulonner les statues du passé? Aujourd'hui, la question se pose. Michel Cotard.
C'est une façon quand même de refaire l'histoire qui n'est pas supportable, je trouve. Dieu sait que beaucoup de gens se sont engagés dans la lutte anticoloniale et des Français se sont engagés dans la lutte coloniale depuis des temps, depuis des années. Dieu sait que, personnellement, moi je suis sensible à la cause coloniale. Mais c'est pas quand on déboulonne la statue de Christophe Colomb sous le prétexte qu'il a envoyé des microbes en Amérique. C'est pas quand on dit à Colbert, qui est quand même... Colbert est vital dans l'histoire française. C'est lui, la centralisation, c'est lui. Et en plus, on le condamne pour avoir parlé de l'esclavage, mais c'était plutôt... Il faisait plutôt une loi pour encadrer l'esclavage. Donc bon, enfin, peu importe.
Oui, l'homme de Louis XIV, je rappelle.
On peut aussi déboulonner Jules César.
La demande de Louis XIV.
Mais bien sûr.
On peut déboulonner Jules César. Bon, ceci étant, c'est inacceptable. D'abord parce que c'est sous la loi de la rue. On ne peut pas accepter, on est en démocratie, on ne peut pas accepter que ce soit la rue qui change le nom des rues, justement, surtout quand elle se trompe. Et puis, on ne peut pas accepter de ne pas assumer notre histoire, d'une certaine façon. Il faut l'assumer avec les bons côtés, avec les mauvais côtés, ou en expliquant, peut-être.
Alors, l'hygiénisme historique, on y revient. Catherine, je vous donne la parole. Écoutons sur ce point, justement, Bruno Retailleau, il était ce matin l'invité d'Europe 1, président du groupe Les Républicains, sur Europe 1.
Quand on commence à s'attaquer à la culture, c'est-à-dire à la civilisation et au statut, c'est généralement très très mauvais signe. Voilà. Et il faut refuser cette racialisation des rapports sociaux. On ne peut pas accepter cette société parce que derrière tout cela, c'est une société conflictuelle où on veut nous imposer, où on veut assigner, où on veut remettre au goût du jour ces affiliations raciales.
Catherine Ney, on est en face d'un danger si, effectivement, on renonce à notre passé.
D'abord, vous savez, relire l'histoire avec les lunettes du présent, les mentalités du présent, ça a un nom, ça s'appelle la téléologie. Bon, c'est toujours dangereux parce que, je veux dire, c'est une autre version de l'histoire et c'est même renier l'histoire qui est une matière vraiment... inflammable. Alors c'est vrai que on a souvent débaptisé des rues pendant Vichy, pendant la période de Vichy, il y a des Gambetta, ça tu as été brûlé. Bon, mais sur la période sur Colbert, ça a commencé lorsque les lois Taubira ont reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. ça a contribué à faire ressurgir ce débat et on a commencé à dire que là, ça fait plusieurs années. Donc on demande que la statue de Colbert soit... Mais on en arrive
mais qu'est-ce
aussi...
Mais qu'est-ce qu'on répond alors aussi aux associations noires de France qui disent que ces statues incarnent la haine et la violence. Il faut détruire les sentiments du passé qui empêchent pour les générations futures d'avoir une compréhension
elle explique de ce qui est notre histoire avec encore une fois ces côtés
sombres.
C'est côté guerrier, et puis tout le reste. Par exemple, alors à ce moment-là, il faut démolir l'Arc de Triomphe. Vous me direz que les gilets jaunes ont essayé de le faire. Il faut démolir le fronton de l'Assemblée nationale. Il faut démolir un certain nombre de généraux, de statues de généraux. Bon, mais d'ailleurs, encore une fois, il me semble qu'une chose est de dire... attention à la haine raciale, attention, faisons partie d'un même peuple, etc. Et une autre chose est de reconnaître son histoire et de dire, moi, si on veut une statue à Toussaint Louverture, moi, je suis d'accord.
Qu'est-ce que vous répondez, Catherine Ney, quand certains demandent, par exemple, que ces statues, elles soient mises, par exemple celle de Colbert, mises dans un musée avec bien la plaque expliquant qui était Colbert, ce qu'il a fait, qu'il était à l'origine de l'esclavage, mais avec le sous-titre qui va bien.
Mais moi, on peut très bien faire ce sous-titre sous sa statue avec une plaque pour expliquer, parce que s'il a été mis là où il est, c'est parce qu'il a beaucoup apporté à la France et qu'il a eu un rôle déterminant dans la création de la France et que c'est une partie de l'histoire. Alors, par exemple, en Belgique, où le roi Léopold, mais il y avait des statues de lui partout, là, certaines vont être mises au musée, comme à Anvers, par exemple. Pourquoi pas ? Mais là, Colbert, vous voyez, c'est... vous parliez de l'Arc de Triomphe. Lorsque l'Arc de Triomphe a été démoli, il y a eu des tags où était écrit « Vérité pour Adama Traoré »,« Vérité pour Odama ». Quand la statue du maréchal Juin a été cassée, place de la... Il n'y a pas longtemps, dans une manifestation des Gilets jaunes, place d'Italie, il y avait marqué « Justice pour Adama ». Donc, vous voyez, c'est quand même très connoté par ce débat dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais on arrive aussi à des aberrations, c'est qu'il y a quelques jours... En Martinique, deux statues de Victor Schœlcher ont été vandalisées, renversées par terre.
C'est l'homme qui a décrété l'abolition de l'esclavage.
Alors que vraiment, c'est lui qui a
décrété l'abolition de l'esclavage.
Et on se souvient qu'en 81, Mitterrand avait au Panthéon été porter une rose sur son tombeau. Eh bien, pourquoi ? Parce que les militants disent, mais c'est pas. Oui, c'est lui qui est glorifié. Alors que s'il y a eu, évidemment, s'il en est arrivé là, c'est parce que nous, on s'est battus pour obtenir.
Donc, alors c'est sans fin. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Le comble, c'est le film Autant n'emporte le vent. Le comble, c'est ça. C'est un film, qui a été marqué par la guerre de sécession. La guerre de sécession, elle a existé. C'est pas nous qui l'avons faite. Et
le patrimoine.
Faut mesure garder.
Savoir raison garder. En tout cas, le patrimoine suscite la polémique. On n'a certainement pas fini d'en parler. Et vous reviendrez évidemment en débattre, mesdames. Merci beaucoup, Catherine Ney, Michel Cotta. Merci à vous, les grands.
Au revoir.